curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actu quotidienne locale. Il est 18h et vous êtes bien sur Prune 92 FM. C'est Antoine qui vous parle et je suis encore une fois ravi d'être à l'animation de ce soir. Que vous soyez dans votre voiture, au travail ou que vous vous enfiliez des saucissons à l'apéro, eh bien je crois que cette émission est faite pour vous. Nous allons passer une heure ensemble pour discuter, apprendre, partager de la musique et s'intéresser aux Nantais. Avant de commencer l'émission, j'aimerais revenir sur un incident de lundi dernier. Un participant de la casserolade contre la réforme des retraites a été grièvement blessé. Atteint par un tir de LBD au niveau des testicules, l'homme de 37 ans a subi une ablation d'un de ses testicules. C'est la deuxième fois que ce cas-là se produit. Un jeune homme à Rennes avait également subi une ablation après avoir reçu un tir de LBD, également le 23 mars dernier. Toutes les semaines, on assiste à des cas de violence policière démesurée. Et après les nombreux affrontements à Sainte-Soline ou dans la plupart des grandes métropoles, je me demande jusqu'où les forces de l'ordre sont prêtes à aller. Je terminerai là-dessus. Aujourd'hui en France, en 2023, les manifestants doivent risquer leur vie et leur intégrité physique pour se battre pour leurs droits. Et ça, c'est inadmissible. Je vous donne tout de suite le programme du Curiosité d'aujourd'hui. Pour commencer, vous allez retrouver le grand entretien avec Yelena et Camilia. Ce soir, elles reçoivent Louise Dalibert qui a réalisé une thèse sur les retraits de la vie politique. En deuxième partie d'émission, ce sera le temps du Zoom Actu, où ce soir Chloé reçoit David Van de Vostienne. Salut Chloé.
Salut.
Nous finirons en beauté cette émission avec la chronique d'Elena, la vida locale. Salut Elena.
Salut, ça va bien?
Ça va, ça va. Il y aura également la fameuse pause cadeau avec Lola, et puis petite dédicace à celui que vous n'entendez presque jamais, mais qui est toujours là, c'est Seb à la Réal. Salut.
Salut Seb.
Bonsoir tout le monde.
On démarre sans plus attendre avec le grand entretien, c'est tout de suite sur Prune, il est 18h02.
Curiosité, l'entretien.
Nous recevons donc Louise Dalibert qui a réalisé une thèse sur les retraits de la vie politique, un regard décalé sur la professionnalisation de la vie politique. Donc tu l'as soutenue le mois dernier. C'est un sujet qui est peu abordé mais qui est devenu plus d'actualité ces dernières années comme on a pu le voir suite aux dernières élections législatives. Donc on va voir qui sont ceux qui quittent la vie politique et pourquoi. En première partie d'émission, on va plutôt s'interroger sur les parcours et les causes des retraits de la vie politique. Et en deuxième partie, on s'intéressera davantage sur les reconfigurations en cours depuis 2017, avec l'arrivée de nouveaux profils, notamment avec l'arrivée de La République En Marche sur la scène politique et la loi de non-cumul des mandats. Mais tout d'abord, bonjour Louise Dalibert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour avertir nos auditeuristes, nous avons demandé à plusieurs anciens politiques d'intervenir dans l'émission, mais nous avons essuyé plusieurs refus avec le motif qu'ils ne souhaitaient pas ou plus parler de politique. D'où ma première question, Louise Dalibert, est-ce que la sortie de la vie politique, c'est un sujet encore tabou aujourd'hui ?
Tabou, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que pendant longtemps, c'était vraiment un angle mort. En tout cas, dans la science politique, de nombreux travaux, de nombreux chercheurs se sont portés davantage sur les questions d'entrée. Comment est-ce qu'on intègre le champ politique? Comment est-ce qu'on s'y maintient? Comment est-ce qu'on devient professionnel? Et là, vraiment, c'est vraiment presque un sous-champ de la discipline, au point où il y a eu vraiment beaucoup de travaux. Là où, paradoxalement, la sortie, eh bien, elle n'était pas traitée comme si, finalement, la sortie, c'était forcément la mort, la vieillesse, la maladie, et qu'on ne pouvait pas quitter la vie politique d'une certaine manière. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est sûr que ces dernières années, on a vu, du fait d'alternance, mais aussi on en parlera justement du fait de la loi sur le non-cumul des mandats, bien des acteurs politiques et même de premier plan, à un âge où ils auraient pu continuer, quitter la vie politique. Donc de fait, c'est un sujet qui est sur la table. Après, la capacité des individus à en parler, c'est variable. Donc c'est peut-être pour ça que vous parliez d'un sujet tabou. Moi, même pour rencontrer mes enquêtés, j'ai eu beaucoup de non-réponses, beaucoup de refus aussi, mais d'autres aussi étaient très envie de parler. Donc en fait, ça dépend aussi des configurations des sorties, puis des tempéraments des individus.
Alors il y a des retraits de la vie politique qui sont plutôt connus. Donc bien sûr, le plus marquant, celui de Lionel Jospin en 2002, donc, qui suite à sa défaite au présidentiel au premier tour, quitte la vie politique. On a plus récemment la sortie de Benoît Hamon, qui lui a quitté la politique peu de temps après son écrasante défaite en 2017, donc pareil au présidentiel. On a l'impression que les départs avant 2017, ils se font beaucoup suite à des défaites. Est-ce que c'est aussi votre constat ?
Pour citer les exemples que vous venez de donner, il y en a même un autre qu'on peut donner, ce qui est assez inédit, c'est Hollande, tout simplement, qui finalement, alors même qu'il n'avait fait qu'un seul mandat, ne se représente même pas à sa succession. Et ça, c'est un fait aussi inédit. Est-ce que c'était davantage les défaites ? En fait, longtemps, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était davantage l'idée des contraintes naturelles qui faisait quitter la vie politique. Et dans la science politique, l'idée, c'était plutôt de dire que de minimiser les impacts de la défaite. Pourquoi ? Précisément parce que l'idée force qui tenait, c'était de dire qu'avec le cumul des mandats, les individus étaient relativement protégés de la défaite. Pour prendre un exemple très simple, dans le cas d'un député maire, par exemple, s'il perd son siège de député ou législatif, il reste maire et donc la défaite ne signifie pas nécessairement la sortie. Or, de plus en plus, du fait des alternances et du fait du non-cumul, eh bien, la défaite peut être synonyme de sortie. Et pour vous donner juste quelques chiffres, eh bien, par exemple, le fait de quitter la vie politique sur une défaite pour le seul mandat exercé, c'était environ 16 à 17% entre 1997 et 2002. Et on monte à plus de 30%, presque un tiers, sur la dernière période de 2013 à 2017. Donc on voit bien que finalement, de plus en plus, au contraire, la défaite peut être synonyme de sortie, là où c'était beaucoup moins le cas auparavant du fait du cumul des mandats.
Alors juste pour préciser, quand on parle de contraintes naturelles, du coup c'est la mort, c'est ça ?
Dans la contrainte naturelle, ce que j'ai mis, c'est la mort, le décès en mandat. Donc c'est là, en effet, c'est la mort qui vient signer la fin de la vie politique comme la fin de la vie. Dans les contraintes naturelles, j'ai aussi mis la maladie, finalement, le fait que les individus renoncent parce qu'ils ne sont plus en capacité d'assurer leur mandat. Et j'ai aussi ajouté la vieillesse, les retraits au-delà de 70 ans, en fait, qui sont souvent justifiés par les acteurs comme le temps pour eux de passer la main et de profiter de leur dernier jour, entre guillemets. Et en fait, ces retraits de la vie politique liés aux contraintes naturelles, longtemps on a pensé que c'était vraiment eux et que c'était eux qui étaient les plus importants. Et preuve en est, si vous voulez, dans l'histoire, longtemps, le sacre du roi, c'était pour toute la vie, c'est la mort qui venait mettre fin au pouvoir. Donc finalement, c'est plus une évolution de dire on ne fait pas forcément ça jusqu'à la mort. Il peut y avoir une vie après la politique. Le politique peut non seulement être quitté, mais on peut aussi vouloir la quitter, ce qui paraissait assez inaudible, en tout cas très contre-intuitif dans les régimes plus anciens.
Donc dans ta thèse, justement, donc là on en parlait, tu reviens sur de nombreuses causes de départ, donc les plus connues, donc le retrait de la politique suite soit à une retraite ou à la mort. Il y a aussi après la défaite. Est-ce qu'il y en a d'autres également, des retraits
Alors moi j'ai construit en fait ce qu'on appelle une typologie en sciences politiques, en sociologie. Donc je vous le disais, les contraintes naturelles, la mort, la maladie, la vieillesse, bien sûr la défaite. Et autre cas de figure, c'est ce que j'ai appelé le discrédit des affaires ou les scandales, quand les individus finalement sont empêtrés dans des scandales judiciaires, que ce soit des scandales financiers ou bien, et on le voit plus récemment, des affaires de mœurs avec les affaires sexuelles. Et donc ça constitue une autre catégorie qui représente au total à peu près 6% en fait. Moi, j'ai travaillé sur les députés de 1997 à 2017, donc environ 6% d'entre eux sont sortis pour ce motif-là. Et après, j'ai construit des catégories de retrait qui sont apparemment plus volontaires. Et donc là, il y a ce que j'ai appelé les nominations. Les nominations en emploi public, là, c'est quand finalement, c'est un peu le haut du panier, entre guillemets. C'est les acteurs politiques les plus dotés, les plus connus, qui là peuvent bénéficier, si vous voulez, plutôt que de partir à la retraite, d'un poste d'ambassadeur, d'être nommé finalement au Conseil constitutionnel ou des autorités indépendantes. Donc là, c'est un peu les sorties magistrales, on va dire, qui permettent de continuer la politique sans être élu, et le plus souvent avec des revenus tout à fait importants. Et autre cas de figure qui paraît peut-être beaucoup plus, pas nouveau, mais en tout cas qui peut être plus contre-intuitif, c'est tout simplement la reconversion professionnelle. des individus qui choisissent de quitter la vie politique parce qu'ils en ont marre, qu'il y a une certaine lassitude et qui ont envie de se reconvertir dans un autre domaine professionnel. Et puis enfin, le dernier, et j'arrête là, il y en a 8 au total, c'est la retraite, tout simplement le choix de la retraite. Et donc là, j'ai situé des individus qui... finalement en expliquant qu'ils ont suffisamment donné en politique et qu'à un âge relativement raisonnable, hein, donc c'est avant 70 ans, j'ai dû mettre un critère arbitraire d'âge parce que j'ai quand même 933 enquêtés et que du coup il fallait à un moment donné créer des indicateurs. Et donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui a vraiment augmenté durant la période. De plus en plus, on considère qu'on peut partir à la retraite parce que finalement, on a déjà donné dans l'engagement et on a envie de profiter de ses petits-enfants, de profiter d'un sorte de loisirs qui n'ont pas pu être... dont ce n'était pas possible, ce n'était pas conciliable avec l'engagement électif à temps plein.
On reviendra du coup sur la reconversion dans le privé. Juste peut-être pour recontextualiser, donc la période que vous avez étudiée, c'est 97 à 2017. Donc voilà. Pour venir à la décision de se retirer de la vie politique, les départs volontaires du fait d'un engagement, d'une désillusion, donc tu l'as mentionné dans ta thèse, sont plutôt incomprises en fait dans le milieu politique. On a l'impression que c'est un phénomène quand même peu répandu. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce côté-là, en fait, du retrait par désillusion, en fait, du milieu politique ?
En fait, le début, moi, de mes recherches, c'était que donc en 2014, j'étais donc en master 2, et il y avait un élu écologiste, donc Jean-Philippe Magnin, qui était vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, qui avait été porte-parole des Verts et qui avait annoncé, alors qu'il avait un peu moins de 50 ans, qui quittait la vie politique par lassitude, parce qu'il avait aussi envie de faire autre chose, qu'il avait, énoncé une forme de critique sur la manière dont fonctionnait le système politique. Et à cette période-là, sa décision, elle avait fait événement, parce qu'elle paraissait vraiment rare, exceptionnelle, au point que finalement, ça avait suscité des réactions aussi de ses collègues, à la fois des réactions plutôt de soutien, mais d'autres qui étaient aussi un peu plus critiques, de « on ne quitte pas, ça ne se fait pas », ou alors « on ne comprend pas, il doit y avoir d'autres raisons », etc. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, en tout cas, ça avait pu paraître comme quelque chose d'étonnant. Sauf qu'en fait, on se rend compte, notamment la période de 2017, mais on va y revenir, je pense, dans la deuxième partie de l'interview, il y avait presque un phénomène inverse, parce qu'en fait, c'était pas rare de se lever le matin, d'écouter la radio et d'entendre le nom de nouvel individu, et la plupart du temps relativement connu, annoncer sa décision de vouloir passer la main, de vouloir quitter la vie politique. Moi, je pense qu'il se joue vraiment quelque chose autour, pas forcément de la désillusion, mais enfin, il y a de la désillusion, il y a aussi de la désacralisation, je pense, de la fonction d'élu. Je pense qu'il y a aussi une évolution tout simplement de la perception de l'engagement, du travail, parce que c'est vrai que on parle de métier politique, et quand je dis ça, je le dis bien aux auditeurs, la question c'est pas du tout un jugement normatif ou du jugement de valeur. Je ne dis pas que la politique est un métier au sens qu'elle doit en être un, mais parce que dans l'étude qu'on en fait, les chercheurs, on l'analyse aussi comme un travail, puisque c'est aussi pour ces acteurs politiques qui sont donc professionnels de la politique, leur principale source de revenus et ce à quoi ils consacrent le plus de temps. Donc finalement, je pense qu'autour de cette question de la professionnalisation de la vie politique, je pense qu'il y a pour certains en tout cas une sorte de désillusion, de démonétisation du statut de l'élu qui longtemps jouissait peut-être d'un prestige social Non, c'est de moins en moins le cas, voire au contraire, une forme de stigmate social. On l'a vu autour aussi du mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup d'élus et de nouveaux élus n'avaient pas mesuré aussi la violence que pouvait procurer en fait le statut de représentant. Et qu'il donne certes certains avantages, mais il donne aussi de nombreuses obligations. Et peut-être que certains qui se sont engagés rapidement n'avaient pas pris conscience aussi des coûts que ça peut susciter.
Sur la question justement aussi de quitter la vie politique par déception, il y a aussi la figure de Pascal Chiron qui, elle, avait avancé dès le départ qu'elle ferait 3 mandats. Donc Pascal Chiron, qui est ancienne adjointe à la mairie de Nantes. Et elle avait aussi déclaré dans Ouest France qu'elle constatait avec déception que les partis politiques tels qu'ils existent aujourd'hui ne sont plus des outils de transformation de la société. Et elle a continué son engagement ensuite dans la société civile. Est-ce que éventuellement vous pouvez revenir peut-être sur cette partie en fait du fait que quelque part on continue l'engagement politique mais ailleurs, en fait, par son métier, par d'autres engagements, mais pas directement impliqué dans le milieu politique tel qu'on le connaît, soit à la mairie ou à l'Assemblée nationale, par exemple.
C'est ça, parce que moi, je travaille sur les retraits de la vie politique, mais de la vie politique élective, ce qui ne veut pas dire que les individus ne s'engagent plus par ailleurs, dans la suite de leur parcours.
Ok, merci pour la précision. Je te remercie. On va faire une pause musicale et ensuite on passera à la deuxième partie de l'entretien.
Shake It de La Poison. Nous retrouvons de nouveau Camilla et Yelena pour la suite de cet entretien.
On va s'intéresser plus particulièrement aux reconfigurations politiques en cours depuis 2017. Puisque 2017, c'est quand même l'année qui a marqué un tournant, une rupture dans la vie politique. Emmanuel Macron est élu président de la République, ce qui met fin à l'alternance entre les deux grands partis du PS et des Républicains. Mais surtout, suite aux élections législatives, l'Assemblée nationale est renouvelée à 75%. Alors, on a beaucoup mis en avant l'arrivée des nouveaux députés La République En Marche, avec des profils plus jeunes, plus féminisés et issus en grande majorité de la société civile. Mais ce chiffre de 75%, qui est quand même du jamais vu, dans quelle mesure, Louise Louise Dalibert, il peut aussi s'expliquer par la loi sur le non-cumul des mandats qui est entrée en vigueur à l'été 2017 et qui, pour rappel, interdit de cumuler un mandat de député, un mandat parlementaire, avec une fonction exécutive locale, donc la fonction de maire, d'adjoint, de président ou de vice-président des conseils départementaux et régionaux.
Il y a deux points dans ta question. La première sur le renouvellement et sur finalement, en effet, il y a une féminisation. Et d'ailleurs, l'Assemblée 2017-2022 était plus féminisée que cela. Alors, ça se joue à deux points, mais voilà. Mais aussi, cette Assemblée, elle n'avait jamais été aussi élitiste. C'est-à-dire que certes on a une entrée de la société civile et ça c'est incontestable, mais quelle société civile, zéro ouvrier, trois employés et en fait une explosion des cadres supérieurs et notamment du privé. Et donc finalement on a une assemblée renouvelée et plus novice certes, mais aussi qui n'a jamais été aussi élitiste dans l'histoire de la cinquième.
C'est l'histoire de la question aussi de la représentation sociale finalement.
Oui, alors bien sûr, on sait que l'Assemblée n'a jamais été à l'image de la société. C'est le principe même de l'élection. Mais malgré tout, elle a été plus proche, on va dire, avec une représentation notamment des classes populaires de la 4e République qui n'avait rien à voir. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, en effet, c'est vrai que dans un premier temps, on analyse, et c'est bien normal, c'est le cas, ce renouvellement massif par l'alternance, par la victoire de La République En Marche. Mais il faut avoir aussi en peut-être que sur ces 75% de renouvellement, en fait, on avait, enfin, par rapport à ceux qui sont sortis, en fait, on avait 20% des sortants qui ont renoncé à se représenter, et notamment parce qu'ils ont voulu privilégier leur mandat local, que ce soit celui de maire, et le plus souvent celui de maire. Et on avait déjà vu, même en cours finalement de la mandature 2012-2017, un certain nombre d'acteurs politiques de premier plan. Hein. Je pense à Xavier Bertrand, à Laurent Wauquiez, à Valérie Pécresse, Carole Delga, qui finalement ont opté pour le fait de prendre la présidence d'une grande région, plutôt que d'être un parlementaire parmi d'autres. Et on voit là qu'il y a aussi une évolution, c'est-à-dire que pendant longtemps, comme on pouvait cumuler ces fonctions, le mandat parlementaire permettait malgré tout une visibilité nationale et d'être auditionné sur les principaux sujets de l'actualité politique. Mais on se rend compte que lorsqu'il faut choisir, eh bien, ce n'est pas forcément le mandat parlementaire qui est choisi. Et ça, je pense que ça s'analyse aussi du fait que les acteurs politiques choisissent, ou en tout cas privilégient, des mandats où ils sont à la tête d'un exécutif. Parce que typiquement, ça permet aussi de dire, moi, dans ma région, vous voyez, j'ai mon bilan, ce que ne peut pas faire un député qui vote des lois. Et donc, en fait, on voit qu'il y a quand même cette prime à l'exécutif qui joue beaucoup. Et donc, il y a une reconfiguration des carrières. Et ça, cette loi sur le non-cumul des mandats, alors, je rappelle qu'elle a été votée en 2014 et qu'elle a été appliquée en 2017. Donc, en fait, ce qui s'est joué, c'est que beaucoup de parlementaires, notamment socialistes et chez les Verts, avaient anticipé la loi. C'était la consigne qui avait été donnée par les partis. C'est de dire, vous êtes élu député en 2012, eh bien vous devez démissionner de vos exécutifs locaux. Donc exécutif, c'est maire, adjoint au maire, président ou de région ou département, vice-président. Donc c'est quand même, ça permet, si on est battu à la députation, on ne peut pas forcément continuer à vivre de la politique par la suite. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Il y a eu des députés sortants qui ne se sont pas représentés pour privilégier leur mandat locaux. Et il y a aussi ceux qui avaient privilégié du coup plutôt la députation, mais qui se sont fait battre du fait de l'alternance massive et qui se sont retrouvés finalement, alors pour certains qui ont dû quitter la vie politique, et pour d'autres qui se sont retrouvés à reprendre malgré tout un métier en plus de la politique, parce que être conseiller municipal d'une mairie ou conseiller départemental ou régional, eh bien, ça ne comblait pas leur emploi du temps. Et donc, on a une sorte de semi-professionnalisation, si vous voulez, des individus qui sont à la fois en politique et qui ont en même temps et qui ont dû reprendre un travail. Et ça, c'était quelque chose qui était objectivement très rare auparavant et de fait qui est en augmentation et qui va encore croître à l'avenir.
Alors, dans tes travaux, tu parles aussi d'une crise du métier politique. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'à cette époque-là, on a entendu beaucoup de discours hostiles à la question de la professionnalisation de la vie politique, que faire de la politique ne devrait justement pas être un métier, une carrière. Ça a été beaucoup mis en avant, notamment par La République En Marche. Alors qu'avant, justement, pour pouvoir être élu, il fallait passer par un parcours militant, exigeant dans un parti, souvent long. Est-ce qu'en fait, tout ça, ça a provoqué une transformation transformation durable du métier politique ?
La question de la durabilité, c'est un peu le point d'interrogation. Parce qu'en effet, en 2017, et c'est Emmanuel Macron lui-même a porté durant sa campagne politique, en faisant aussi de son parcours dans le privé, finalement le fait qu'il n'était pas un professionnel de la politique, alors même qu'il a participé à de nombreux... Dans l'ombre, mais si vous voulez, qu'il n'était pas novice.
Et puis il était aussi ministre de l'économie quand même pendant plusieurs années.
Oui, mais voilà, typiquement, Macron correspond à la filière que j'énonçais tout à l'heure, de la filière d'arriver directement au centre. Il arrive en politique, il est nommé au gouvernement ministre de l'économie, alors qu'il n'a jamais été élu. Mais tout ça pour dire que Macron a mis en avant pendant sa campagne cette fameuse société civile et qu'il l'a portée en prenant aussi en parallèle une loi sur la moralisation de la vie politique, avec l'idée finalement d'associer la professionnalisation aux affaires ou au fait d'être depuis trop longtemps en politique et donc être déconnecté des réalités. En tout cas, c'était un discours qui a été très fort pendant la présidentielle, mais en même temps, on retrouvait aussi ce discours-là à la France insoumise d'une certaine manière. Jean-Luc Mélenchon avait bien écrit auparavant qu'il s'en aille tous, alors même qu'il est élu depuis les années 80. Mais pour répondre sur la crise du métier politique et la suite, la difficulté, elle est que finalement 2022 a été à la fois une rupture et une continuité. En fait, malgré tout, 2022 a encore amené des individus relativement novices en politique, notamment la NUP a investi aussi des individus qui n'étaient pas forcément professionnels de la politique. On voit bien que cette question-là, elle demeure dans la société, en tout cas un point de défiance, en tout cas.
Alors justement, ces députés novices, il y en a quand même un certain nombre après les élections législatives de 2022 qui sont retrouvés finalement battus après un seul mandat. Donc le retour à la vie normale, il y a eu notamment beaucoup de reconversions dans le privé, donc assez rapidement puisqu'on arrive en fin d'émission. Mais est-ce que ce type de reconversion prend de l'ampleur ? Vous parlez de reconversion lucrative. Et puis on voit qu'il y a aussi la question un peu des conflits d'intérêts entre les allers-retours, entre le public et le privé.
En fait, je le disais, l'idée même d'avoir une vie après la politique a longtemps été qui ne se posait pas, ou en tout cas qui était relativement contre-intuitive. Et en réalité, pourtant, moi j'ai un tiers des députés sur mon terrain qui, après leur carrière politique, ont repris une autre activité professionnelle. Alors ça dépend de leur âge, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais une partie non négligeable, environ 40% de ceux qui ont repris une activité professionnelle, se sont reconvertis dans le monde des affaires. Et là encore, c'est davantage des hommes, davantage issus initialement des classes supérieures, et aussi issus plus massivement de la droite. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui était déjà là. Mais ce qui se développe d'autant plus après cette législature avec les macronistes, puisque finalement, on avait déjà des gens qui étaient originaires du privé et qui étaient déjà cadres du privé avant la politique. Donc finalement, la politique a même pu, pour eux, constituer une sorte de tremplin. Il y avait des députés macronistes qui avaient dit, finalement, un député, c'est aussi ajouter une ligne sur mon CV LinkedIn.
Donc finalement, ça serait une simple étape dans une carrière.
Ça peut être ça, mais en fait, c'est un peu le revers, si vous voulez. La critique de la professionnalisation, elle dit on ne doit pas s'engager toute une vie en politique, mais de l'autre côté, finalement, quand on parle de gens qui s'engagent et qui ne font que passer en politique, on leur reproche de s'être servi de la politique pour s'enrichir ou pour en avoir profité personnellement. Donc, si vous voulez, le débat, il est ouvert. Et là, il est cliché, puisque là, j'ai fait un peu schématique. Mais en tout cas, il promet d'avoir aussi beaucoup de choses à en dire.
Je pense juste à un petit exemple avant de conclure sur ces reconversions qui font quand même polémique. Il y avait Alexandre Djebari, ancien ministre des Transports, qui a rejoint le conseil d'administration d'Opium, une start-up de voitures de luxe à hydrogène. Donc je pense que ça pose aussi effectivement les questions à l'avenir des conflits d'intérêts, donc à surveiller peut-être.
Et la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique a de quoi faire.
Merci beaucoup Louise Dalibert.
Merci à vous.
Si vous souhaitez écouter l'entretien en entier, il faut vous faire un tour sur le site internet de Prune et réécouter l'émission L'œil politique du mois de janvier. On passe maintenant à la pause cadeau, c'est avec Lola et c'est tout de suite sur Prune, il est 18h29.
La pause cadeau.
Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des vinyles pour le projet Dagogazo, projet réunissant Ametek, pionnier du hip-hop togolais, ainsi que Vidoc et Zepo, producteur nantais. Alors tente de gagner l'un de
en nous envoyant un message sur l'Instagram de Prune. Et on retourne doucement avec la suite de l'émission et le morceau Kini Dub Get Dago Gazo. C'est tout de suite sur Prune.
Vous venez d'écouter Kini Dub de Azo Gazo. N'oubliez pas de participer pour gagner les vinyles de l'artiste en envoyant un message sur le compte Insta de Prune. C'est déjà le temps du Zoom Actu où ce soir David Van de Vostienne vient nous parler d'une pièce de théâtre dans laquelle il est le seul comédien, nommé Confession d'un ancien président qui a entraîné son pays au bord d'une crise. C'est tout de suite sur Prune, il est 18h34.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Vous êtes donc comédien et vous venez aujourd'hui nous présenter la pièce de théâtre Confession d'un ancien président qui a entraîné son pays au bord d'une crise dans laquelle vous êtes le seul à jouer. Vous incarnez un ex-président qui décide d'entrer dans l'histoire comme le premier président à dire toute la vérité sur ses années au pouvoir. Sous forme d'allocution aux citoyens, il alterne alors entre confession et plaidoirie. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter rapidement l'histoire de ce texte ? Il a été écrit en 2012 et imaginé alors les confessions de Carlos Menem, président de l'Argentine de 1989 à 1999. C'est bien ça ?
Absolument. Au départ, Davide voulait écrire sur la figure de Berlusconi, parce qu'il est donc italien. Et puis, en allant assister à une représentation d'une de ses autres pièces qu'il a écrites, Variation sur le modèle de Crépine, à Buenos Aires, il a été logé très près de la place de Mai. Et là, c'était à peu près, ouais, en 2010, 2011, 2012. Et il était en train d'écrire sur Berlusconi et il a vu que il comprenait pas pourquoi toutes les banques à Buenos Aires étaient barricadées. Et donc, il a interrogé un peu les gens autour de lui et on lui a dit, bah oui, mais c'est suite à la révolution des casseroles en 2001. Alors, qu'est-ce que c'est que la révolution des casseroles ? C'est marrant, ça sonne un petit peu contemporain avec nous, ce qu'on vit en ce moment. On lui a dit, bah voilà, en fait, en 2001, suite aux 10 ans de Carlos Menem, eh bien, le petit épargnant, le petit argentin, n'importe qui, allait à la banque et puis on lui répondait, ben non, en fait, vous n'avez plus d'argent sur votre compte puisque le gouvernement argentin a permis au FMI de se servir sur tous les comptes. Voilà, puisqu'il avait totalement, Carlos Menem avait totalement privatisé son pays dans la décennie 90. Et donc, c'est dans l'histoire contemporaine de la politique mondiale, c'est vraiment le cas d'école, malheureusement réel, d'un pays qui a totalement été privatisé. Donc, Davide a pensé à écrire sur Carlos Menem. Et puis nous avons fait une adaptation un petit peu de ce texte. On a fait les coupes, toutes les coupes qui ont référence au peuple argentin. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a trois phrases, en fait. Et puis voilà. Et puis on s'est dit qu'on s'est rendu compte quand même que c'était un texte qui était surtout sur la parole politique, sur la rhétorique politique. Donc c'était intéressant de le faire entendre maintenant. En France, en Europe, puisqu'il est monté en Europe assez régulièrement.
Et finalement, voilà. Du coup, on retrouve d'autres présidents aussi à travers votre personnage ?
Eh bien, là, je ne m'inspire d'aucun président en particulier, ni avec le metteur en scène, ni avec le créateur, le metteur en scène Olivier Cherki, et le créateur son et lumière Thierry Mathieu. On n'est vraiment pas à penser à des figures politiques, mais il est vrai, parce que là, on est encore en création. Là, cette interview se fait à distance, parce qu'effectivement, je suis en Bourgogne, à Toulon-sur-Arroux. Nous terminons cette création après-demain. La première, elle est vendredi. Mais on a déjà fait quelques sorties de résidence, où ça nous permet d'avoir des retours publics et de professionnels. Et on entend énormément de noms de politiques. Ça me fait penser à Macron, ça fait penser à Hollande, ça fait penser à Sarkozy, ça fait penser à Chirac, etc. Chacun y voit l'homme politique qu'il veut, mais c'est surtout un échange entre ce public et cet homme politique. Nous, on a monté ce texte pour essayer d'éveiller l'esprit critique, en fait, de tout un chacun.
Cette pièce, du coup, c'est un véritable exercice de discours poétique pour vous, avec toute l'intonation et les gestes qui accompagnent les mots qui vont avec. Comment avez-vous réussi à entrer dans ce personnage ? J'imagine que c'est peut-être plusieurs heures de visionnage de discours.
Alors, à la base, non. Déjà, nous sommes abreuvés de discours politiques, de références, puisqu'on est dans une société de l'image, même si moi j'ai pas la télévision, j'avouerai personnellement, mais je regarde souvent par exemple le zapping, ce qu'on appelle le vu maintenant, et c'est vrai qu'on est bien servi tous les jours. Et en fait, comme j'ai pas du tout envie de rentrer dans une figure, dans un personnage, je me laisse porter par les mots et par le travail au plateau avec le metteur en scène. Ouais.
À travers ce discours présidentiel fictif, plusieurs thématiques sont questionnées, comme par exemple le rapport au pouvoir de l'homme politique. Comment il se traduit ce rapport au pouvoir dans votre personnage, dans sa posture, son langage peut-être justement?
Il se traduit par différents biais, c'est-à-dire que parfois ça reste un homme. C'est un homme politique, mais ça reste un homme, donc il est parfois d'une très grande sincérité. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de défendre. Et puis parfois, ses idées, son discours l'emmène dans une fiction, pas vraiment une folie, mais en tout cas, ses pulsions premières, ses pulsions animales, ses pulsions d'homme, tout à chacun, elles ressortent et sont décuplées par justement cette ivresse du pouvoir qui permettent de croire que tout est possible et la démesure de certains hommes politiques.
La pièce, elle nous invite aussi à être critique du coup sur la pratique du discours politique qui parfois s'apparente plus à un exercice de communication et de rhétorique. Finalement, ça se demandait si ce ne serait pas plutôt le politique qui s'inspire du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se traduit, cette surabondance de communication dans le discours politique?
Ben, c'est vrai que maintenant, tous les hommes politiques sont coachés, parfois par des comédiens, par des metteurs en scène. Et donc, chaque détail est scruté, tout est travaillé. On l'a vu, là, je pense à ça, quand Macron voulait enfourcher le tigre pendant la crise de Covid, quand il a commencé à remonter les manches, quand il était en face des acteurs de la culture, qu'il a voulu faire l'acteur, il a voulu faire l'acteur. Bon, malheureusement, ça s'est vu. Cette semaine encore, au Molière, c'était hier ou avant-hier, il y a une intervention, il y a une réponse qui était visiblement préparée par la ministre de la Culture. Tout était vraiment préparé. On voit les coutures, quoi. C'est-à-dire que quand on est un petit peu critique, quand on prend un peu de recul par rapport à ce monde de la communication, on se rend effectivement compte que les hommes politiques reprennent tous les codes de jeu, quoi.
Cette pièce alterne entre technique de manipulation et exercice de sincérité politique. Et dans ce mélange entre mensonge et vérité, elle invite à nous poser la question de la sincérité en politique. Que diriez-vous de votre personnage? Est-ce qu'on peut croire en cet homme politique qui vient se confesser?
Alors, de mon point de vue, moi qui suis l'acteur sur le plateau, moi je défends mon personnage. De toute façon, il faut absolument que je le défende. Après, je laisse le public faire son travail. C'est-à-dire que c'est un public qui est quand même assez particulier, qui sera particulier, puisque on va jouer un peu partout et bientôt à Nantes, la première didascalie de Davidé, l'auteur, Davidé Carnevali, c'est l'ancien président est devant un banc, et on ne sait pas si c'est un banc de tribunal ou un banc de confession d'église. Voilà. Donc il vient quand même s'adresser à un public particulier. Et ce public particulier, on lui demande aussi de faire son travail de citoyen et d'aiguiser son esprit critique. Donc effectivement, ça va être à lui de nous dire, et on n'est pas chez Robert Hossein, on ne va pas lui demander de voter à la fin du spectacle, coupable, pas coupable, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, dans les retours qu'on a eus encore la semaine dernière quand on a fait une présentation à Paris, c'est vrai que les gens repartaient avec des questions. Et c'est des questions qui ouvraient sur beaucoup de choses, sur la pratique de tout à chacun dans la vie publique, quoi.
À travers la mise en scène aussi du spectacle, on retrouve toutes ces questions entre illusion d'optique et contrôle du corps via un dispositif vidéo. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces dispositifs?
Alors, le dispositif vidéo, je ne vais pas vous mentir, ça c'est le dossier que vous avez reçu, le dispositif vidéo.
Ça ne va pas être mis en place.
Il n'est plus là.
Okay.
Il n'est plus là, on s'en est séparés.
Il y a tout de même un contrôle du corps qui reste présent.
Mais il y a un travail sur l'image et le son, effectivement, puisque cette parole, elle est au service d'une rhétorique, et cette rhétorique, petit à petit, elle glisse. C'est-à-dire que par des changements de mots assez fins, petit à petit, la charge de la preuve, j'ai envie de dire, se renverse. C'est-à-dire que ce président a été élu, avec un programme de gauche. Et puis, il est arrivé, et puis il a exercé un pouvoir de droite. Mais ça ne l'a pas empêché d'être réélu. Donc, il pose la question quand même. Moi, j'ai été clair, j'ai été cash avec vous, j'ai fait les choses. Si vous m'avez réélu, qu'est-ce qui n'a pas fait le travail, en fait? Voilà. Il pose cette question-là. Donc, c'est pour dire que ce petit glissement comme ça, on le transpose poétiquement avec un travail sur le son, de distorsion, entre autres. Je ne vais pas tout vous dire. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y a un travail là-dessus et un travail effectivement visuel sur les changements de lieu de perspective, changements de lieu mentaux, pour ce président.
Merci David Van de Westen.
Eh ben, je vous remercie, c'était un plaisir.
Vous voulez rajouter quelque chose, non?
Juste vous dire que voilà, ces dates à Nantes, nous allons jouer les 11 et 12 mai à La Ruche, théâtre La Ruche, place Viarme, et puis en octobre au Cyclope, et puis certainement au théâtre de la rue de Belleville l'année prochaine. Voilà.
Super. Je rappelle donc que vous êtes l'interprète du président dans la pièce nommée Confession d'un ancien président qui a entraîné son pays au bord d'une crise. Elle sera présentée du coup le 11 et 12 mai au théâtre La Ruche, le petit théâtre de Viarme, et je vous propose d'écouter tout de suite le teaser.
Confession, c'est l'histoire d'un ancien président de la République qui décide de venir dire toute la vérité sur son mandat.
Chers amis, chers concitoyens,
parlez librement.
C'est de cela dont il s'agit ici, aujourd'hui. Quelques-uns ont essayé avant moi, presque aucun n'y a réussi. Moi, si.
Je n'ai jamais cru que la politique néolibérale qui a caractérisé mes différents mandats pouvait faire le bien du pays. Oui, je l'ai dit.
Mais est-ce qu'on peut croire un homme politique? La question se pose. Et quand on l'écoute parler, on est pris à la fois par des élans de sincérité et en même temps, on est méfiant de la possibilité d'un mensonge. Où est la réalité? Où est la fiction? Et ça, c'est un sujet éminemment théâtral.
Le problème de ce pays n'est pas le manque de travail. Le problème de ce pays est le manque de temps pour penser.
Voilà la crise, et non la crise économique. La crise économique, c'est pas une crise, c'est juste le cours du marché. Le marché, tout s'y fait. Il monte, il descend. Parfois, il monte un peu plus, parfois un peu moins. Parfois, il descend rapidement, parfois non. Parfois, il n'y a plus d'argent, parfois les banques font faillite, parfois non.
C'est pas nouveau.
Au cœur de cette pièce, il y a la question très actuelle du discrédit de la parole politique. Nous croyons profondément à la politique et notre idée, c'est de pouvoir trouver un espace entre les mensonges d'État et les complotistes. Et plus directement, c'est un projet qui a pour but d'inciter les citoyens à développer leur esprit critique et à veiller et à s'armer en pensée.
Eh ben merci Chloé et merci David Westen d'être venu dans l'émission. Place maintenant un petit interlude musical avec Emma Jean et son titre Say Something avant de retrouver la chronique d'Elena. C'est tout de suite sur Prune.
Bright.
C'était Say Something de Emma Jean. Et puis, chose promise, chose due, on retrouve la chronique d'Elena, La Vida Locale.
La Vida Locale.
Oui, rebonjour. Bon, je blague, je ne vais pas faire toute la chronique en chuchotant. Rebonjour à toutes et à tous. Ravie d'être de retour sur Prune après un petit mois d'absence. Et je vous présente de nouveau un numéro de La Vida Locale, un micro-trottoir même, où je pars à la rencontre des Nantaises et des Nantais avec mon micro et avec une question. Et oui, Dieu sait que des questions, j'en ai beaucoup qui me trottent dans la tête. Par exemple... Pourquoi le ciel est-il bleu ? Quel est le secret de Radio Prune qui fait qu'elle est la meilleure radio du monde ? Suis-je la seule à avoir de la farine plein le placard ? Car de ma vie entière, jamais je n'ai trouvé un paquet qui ne fuite pas. Je ne sais pas si c'est votre cas également. C'est vrai, il faut dire quand même, en 2023, comment se fait-il que la race humaine puisse envoyer des fusées dans l'espace ? Par contre, personne n'a encore mis au point de paquet de farine hermétique. Voilà, excusez-moi, je m'agace un petit peu là, mais voilà, on est comme ça sur Prune, ça dénonce. On n'a pas peur de dire les choses. Aurons-nous un jour des réponses à toutes ces énigmes ? Écoutez, je ne sais pas. Mais il y a une question qui semble prédominer un peu toutes les autres. Comment faire pour se sentir heureux ? Y a-t-il des astuces pour évacuer la déprime et retrouver des good vibes ? Vous vous dites peut-être, mais elle ne serait pas en train de recycler un thème de chronique sur le bonheur qu'elle a déjà fait il y a quelques semaines ? Et vous auriez raison. Mais, chers auditeurs, est-ce qu'on n'a pas toujours besoin de nouveaux tips pour se mettre de bonne humeur ? Je pense que si. Je vous propose donc d'écouter les Nantaises et les Nantais.
Bah, j'aime beaucoup aller au cinéma l'après-midi. Y a vraiment cette sensation très particulière de rentrer dans une salle de ciné, notamment du coup au 14A, qui est une salle qui n'est pas forcément fréquentée énormément par rapport à un Gaumont ou autre, de rentrer là-dedans et on est une dizaine dans la salle et on regarde un film. Ce film nous fait vivre les émotions qu'il a à nous faire vivre et on ressort et il fait encore jour. Et je sais pas, il y a vraiment un truc de le monde s'arrête pendant 2 heures, 1 heure et demie et on regarde cette histoire que quelqu'un a nous raconter et on peut repartir après et il fait encore jour et on voit les gens qui continuent à vivre leur vie alors qu'on vient de vivre un moment hyper intense au cinéma.
Alors moi ce que j'aime bien faire c'est la musique, ça me met tout de suite dans une bonne ambiance, donc j'ai mes petites playlists sur Spotify, donc j'ai une playlist Good Vibes et j'ai une playlist aussi Power, et du coup dans cette playlist j'ai des musiques comme Unstoppable de Sia et tout ça, et après je peux affronter la journée parfaitement.
Manger quelque chose que j'aime bien, voilà je mange mes émotions des fois aussi, alors... Ça va être un peu drôle de dire ça, mais je pense que ça marche. Des fois, peut-être pas tout le temps, je me touche. Ben en fait, ça déclenche des endorphines, je pense. Donc bah là, c'est sûr que voilà, tu vas bien sentir, bah, tu vas sentir bien après. Voir un pote. Ou en fait des fois juste de me dire bon là tout de suite je me sens pas bien du tout, un peu comme de la merde, et bah du coup des fois de juste l'assumer, bizarrement en fait j'y pense plus et ça part un peu tout seul, je pense à d'autres choses, voilà. Donc voilà les tips.
En fait ce qui est un peu contradictoire c'est quand on dit que quand on déprime on reste chez soi, mais moi, je pense que le meilleur traitement, c'est de sortir de chez soi, justement, et d'aller voir ce qui se passe en dehors de sa zone de confort. Et ce que j'entends de sortir de sa zone de confort, c'est d'aller voir ce que sa ville propose. Et on est dans une ville, justement, où Nantes propose pas mal de sorties artistiques et culturelles. Il y a toujours des événements et autres qui nous permettent de sortir, et je suis stimulé par tout ça. Voilà. Ma ville est belle et ça fait 6 ans que je suis là et je m'ennuie toujours pas.
Et merci aux Nantaises et aux Nantais d'avoir partagé avec moi tous ces tips, pour le moins très variés, pour essayer d'évacuer les coups de blues ou du moins de mieux les vivre et de réussir à ensuite retrouver la bonne humeur. Et je vais vous dire à bientôt pour un prochain épisode de La Vida Locale.
Merci Elena. Moi perso, je vais marcher dehors, sans écouteurs, sans rien. Et après, c'est ma petite bulle positive de la journée.
Simple, tranquille. Mais efficace.
Simple, hyper efficace, mais c'est... C'est mon petit bonheur, quoi.
Une très bonne idée également.
Malheureusement, votre émission Curiosité touche à sa fin. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune. Retrouvez demain le live musical du jeudi. Tout de suite sur Prune, c'est le Labo des Savoirs qui démarre l'émission scientifique activatrice de Synapse. Restez à l'écoute, à bientôt et bonne soirée sur Prune.
Curiosité, du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.